Paul-André Le Sœur, dans votre dernier livre, Après le déluge, vous avez choisi de nous montrer une société qui vit sous la loi des femmes, une société matriarcale. Pourquoi avoir choisi de nous montrer une société qui vit sous la loi des femmes ?
J'ai toujours eu le sentiment que dans toute société, il y avait des oppressions, des libérations nécessaires, possibles, souhaitables, et que à l'intérieur de toute société, il fallait être très sensible à tous les facteurs d'oppression, de domination, de pouvoir. Et il se trouve que nous sommes sensibilisés depuis surtout une vingtaine d'années au fait que nos sociétés occidentales, européennes particulièrement, sont en effet dominées par les hommes. Et que tout ce que nous voyons aujourd'hui dans ce mouvement de libération des femmes, à mon avis, extrêmement justifié à énormément d'égards, et que... Il pourrait se faire aussi bien l'inverse. Et ce qui était grave, c'était pas la domination des hommes sur les femmes, c'était la domination d'un sexe sur un autre. Alors, comme je prenais une situation relativement arbitraire, dans cette île qui est le lieu où se passe mon roman, il m'a semblé très intéressant pour moi, comme hypothèse de départ, d'imaginer une société où c'est au contraire, où ce sont au contraire les femmes qui sont le sexe dominant, avec en effet tous les problèmes que ça pose et toutes les gênes, tous les ennuis, toutes les difficultés que ça crée dans une société, ce point, cette domination assumée par un sexe.
Est-ce qu'à votre avis, il peut y avoir une coexistence des sexes sans domination d'un sexe sur l'autre ?
Vous savez, le possible, le souhaitable... Je ne suis pas assez analyste social pour pouvoir bien les discerner. Je pense que de toute manière, tout ce que nous faisons dans une société est toujours guidé, qu'on le sache ou non, et même si l'analyse scientifique est rigoureuse, est toujours guidé par une idée qu'on peut appeler bien tranquillement, suivant le vieux terme, utopie. C'est-à-dire quelque chose qui, peut-être en effet, ne peut se passer dans aucun lieu, mais qui est un dessein général vers lequel on tend et dans lequel on peut vraiment, vraiment profondément progresser. Et je crois, vraiment, je crois, c'est un objet de croyance, c'est un objet peut-être aussi d'espérance et d'action, que dans une société, la domination des sexes l'un par rapport à l'autre, la liberté des sexes l'un par rapport à l'autre, et j'allais dire presque la disparition de la lutte des sexes, est une chose qui est tout de même très approchable, il me semble.
Oui, la domination des sexes. Mais est-ce qu'il peut y avoir une société sans domination, sans violence ?
Je ne sais pas si c'est possible. Tout ce que nous enseigne l'histoire, j'allais dire malheureusement, ça n'est ni malheureusement ni heureusement, tout ce que nous montre l'histoire, c'est que la violence est présente dans les sociétés. C'est une des choses les plus, à mon avis, les plus dramatiques de la réflexion historique pour un chrétien. Quand on voit ce qui, dans le message de Jésus, dans le message évangélique, est... Je ne dis pas commandement de la non-violence, les choses sont beaucoup plus subtiles que cela dans l'Évangile, mais tout de même appel à la non-violence, en tous les cas au pardon des injures et au pardon de la violence. Et de voir que ces 2000 siècles que nous avons vécu depuis cet enseignement, je ne dis pas ont fait ou n'ont pas fait diminuer la violence, car nous ne savons pas comment cela aurait été sans ce message chrétien, mais en tous les cas... que la violence dans l'histoire et la violence dans le monde, soit des chrétiens, soit des chrétiens en rapport avec, notamment avec des peuples non chrétiens, que la violence y a été considérable. Et il faut bien voir que dans la Bible, qui nous raconte une histoire qui n'est pas encore chrétienne, puisque la révélation de Jésus n'est pas encore donnée, mais qui est tout de même l'histoire d'une immense révélation de présence et d'appel et d'exigence de Dieu, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la violence est partout. J'ai toujours été frappé par la vie de Moïse. Il ne faut pas oublier que la vie de ce grand libérateur a commencé par un acte de violence tout à fait solitaire, qui a été ce meurtre de l'Égyptien qu'il a enfoui dans les sables parce qu'il l'avait vu maltraiter ses frères, et que ça a été le commencement de la libération d'Israël captif en Égypte. Il y a beaucoup de gens que ça horrifie quand ils lisent l'Ancien Testament en disant « Mais c'est un Dieu cruel, regardez ce que font même ses meilleurs amis. » Moïse était vraiment l'envoyé, le révélateur de Dieu pour cette œuvre de libération. Je crois qu'il faut être extrêmement humble devant cela, non pas en disant « Il y a une violence sacrée, Moïse l'a pratiquée et c'est donc très bien », ni en disant « Vous voyez comme il a été horriblement pécheur puisqu'il a été obligé de faire ça alors que certainement sa vocation n'était pas dans ce sens-là. » Je pense qu'on ne peut dire ni l'un ni l'autre. Je veux dire, j'appartiens à une génération... qui était jeune au moment de la guerre de 39-40 en Europe. J'ai été moi-même combattant cette année-là. Et j'étais persuadé depuis les années 33, depuis l'accession de Hitler au pouvoir, qu'il était impossible, qu'il serait impossible de libérer l'Europe de la menace qui n'a fait d'ailleurs que se réaliser de plus en plus grande, de 33 à 39, qu'il serait impossible de se libérer de cette menace sans entrer soi-même dans la violence, ce qui était la guerre. Et c'est pourquoi, je le dis en passant, je ne suis pas pacifiste. Je pense que le pacifisme, là aussi, est une utopie qui doit être directrice et qui doit nous aider, mais qu'il y a des situations, comme en 1939, où on ne peut que faire la guerre.
Si la violence est partout, est-ce que ce n'est pas parce que au cœur de l'homme, il y a le désir qui est violent?
Certainement.
Je pense à Homère en particulier, le personnage de Après le déluge, n'est-ce pas? Il y a en lui un désir qui est d'une violence incroyable.
Certainement. Certainement, la violence est certainement liée au désir. Dans le cas présent, le meurtre que commet Homère en tuant un chasseur qui vit avec la femme que lui, Homère, commence à aimer, est un meurtre qui est un meurtre de jalousie, donc de désir, de possession charnelle et de possession seule, privilège de possession. En même temps, c'est à travers cet acte-là qu'il prend conscience de la nécessité de s'insurger contre des lois parfaitement immobiles et qui tenaient finalement plus ou moins dans une sorte d'esclavage invisible, d'une part les hommes justement, sous la domination des femmes et notamment des anciennes, et d'autre part par rapport à ces lois de cohabitation, ces lois du mariage, ces lois du travail qui sont celles de cette société et qui lui sont devenues insupportables. Et au fond, il ne commence à en prendre conscience qu'à ce moment-là, à travers cet acte-là. Alors, vous savez, d'ailleurs, quand on écrit un roman et qu'on est avec les personnages, on ne peut pas les juger. Et j'aurais bien du mal à juger Homère et à dire en soi-même, il est coupable dans cet acte-là. C'est un acte à la fois révélateur, mais en même temps, un acte qui souille dès le départ, en quelque sorte, son action. Et je n'entrerai pas dans le problème classique des moyens et des fins, mais on pourrait l'appliquer là. Un critique a dit une phrase qui m'avait beaucoup frappé à propos de ce meurtre dans mon livre. Il avait dit, si c'était biblique, ce serait Abel qui aurait tué Caïn. Et j'ai trouvé ça assez curieux, avec beaucoup d'intelligence dans cette remarque. En même temps, Abel était un innocent, Homère n'est pas un innocent.
Oui. Mais alors, pour en revenir à notre problème, au problème que nous élaborions, n'est-ce pas, le problème du désir comme lieu de la violence, est-ce que justement, n'est-ce pas, le fait que l'homme soit un être de désir, n'a-t-il pas pour conséquence que nécessairement l'homme est violent? Parce qu'il y a en lui cette violence très forte qui le pousse.
Oui, mais c'est là qu'on voit que le désir est quelque chose d'extrêmement, je vais dire, ambivalent, ambigu, parce que c'est le même mouvement qui crée en effet la violence et d'autre part le dépassement et de soi-même et des règles dans lesquelles vit une société et même des techniques. C'est cette espèce de désir multiforme de l'humanité qui l'a fait passer, ne serait-ce que sur le plan technique ou technologique, qui l'a fait passer des outils les plus élémentaires à des outils plus élaborés. C'est pourquoi dans mon roman, j'ai pris comme point de départ cette idée que les hommes qui ont survécu à un déluge contemporain se remettent à tailler la pierre, parce qu'ils n'ont que de la pierre, ils ne peuvent que tailler la pierre, et que, d'autre part, ils ne savent pas faire le feu. Le feu est un secret qui est gardé par les anciennes, qui le renouvellent une fois par an, et les femmes ont le devoir de le conserver, et les hommes n'ont aucun droit et aucun devoir à cet égard, simplement, quand leur feu s'éteint, il faut qu'ils aillent leur demander à une femme, et encore à condition d'avoir travaillé pour elle. Eh bien, il y a tout le monde dans cette société, semble-t-il, d'après l'imaginaire que j'ai transcrit dans mon roman, tout le monde dans cette société semble, plus ou moins, se satisfaire de cette situation. Et ce qui naît, le désir qui naît à Homère, c'est « ce n'est plus possible, ce n'est plus possible, ce n'est plus possible ». Il y a une phrase de Claudel, vous savez que c'est un auteur que j'aime beaucoup, une phrase de Claudel qui m'a beaucoup frappé, je ne sais plus où elle est, ça n'est pas dans une œuvre composée, je crois que c'est dans, je ne sais pas si c'est dans une interview ou dans des textes critiques qu'il a recueillis dans Position et Proposition. Et Claudel parle à un moment de ce sourd grommellement intérieur d'où naît l'œuvre en chacun. Et on voit très bien, d'ailleurs, dans le langage de Claudel, superbement élaboré, que ça sourd d'un grommellement intérieur. Et moi, j'étendrais volontiers cette expression à tout le désir humain. Je dirais que Homère, le personnage de ce livre, sent monter en lui, peu à peu et de plus en plus, ce grommellement intérieur que je traduisais tout à l'heure par « c'est plus possible, ce n'est plus possible », et qui est à la fois ne pas en rester là, ne pas accepter les limites, ne pas accepter de dépendre totalement, même pour cette chose élémentaire qu'est le feu, être libre pour savoir faire le feu. Comment faire savoir le feu? Pourquoi être soumis à cette loi du travail qui fait qu'on devient les esclaves des femmes? Ça n'est plus possible. Je crois que toutes les grandes luttes sociales sont sorties de là. Quand on pense à la Révolution française, par exemple, je suis frappé de voir que tous les historiens mettent, bien entendu, et mettaient surtout jusqu'à une trentaine d'années, l'accent sur les idées qui ont provoqué la Révolution française, notamment sur tout ce que Rousseau avait pensé sur la nature et la nécessité du contrat social. Mais c'est en quelque sorte une explicitation de quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui est proprement cette espèce de désir collectif qui a fait que, par exemple, le 14 juillet 1789, non seulement à la Bastille, mais dans toutes les campagnes françaises et les jours suivants, tout à coup, cette espèce d'ébullition qui jaillit, qui n'est pas de gens qui avaient lu Rousseau ou parce qu'ils avaient lu Rousseau, mais qui est un « ça n'est plus possible, ça n'est plus possible, ça n'est plus possible, il faut autre chose ». Ça, c'est le désir. Mais ce désir est violent parce que, d'abord, la plupart du temps, il ne sait pas par quel processus il va passer pour se réaliser. Tout ce qu'il peut, c'est faire craquer les bandelettes, soulever en quelque sorte le couvercle, et ça fait beaucoup de dégâts.
Mais le désir, est-ce que c'est aussi la voie de l'absolu dans un être humain?
Voilà. Alors là, vous me posez une question extrêmement intéressante parce que je crois personnellement que le désir profond de l'homme, ça n'est pas seulement ce progrès technologique, par exemple, pour dominer les outils, pour dominer le feu, pour dominer la matière. Ça n'est pas seulement ce désir d'une société où on soit plus à son aise, on soit moins étouffé par de nécessaires rapports sociaux. Mais que, au-delà de tout ça, ou plutôt pas au-delà, mais en deçà, plus profond encore, il y a un désir, je parlais tout à l'heure d'utopie, et c'est pas de l'ordre de l'utopie, je dirais volontiers de l'absolu. J'accepte tout à fait le terme, et la grande difficulté pour l'homme individuel, dans sa vie personnelle, dans ses rapports avec les êtres, dans ses rapports avec les choses, dans ses rapports avec son œuvre, pour un artiste, la grande difficulté, c'est de ne pas croire que quand un point est atteint de ce qu'il s'était représenté dans l'immédiat ou dans le futur relativement atteignable, les choses sont faites. Il s'aperçoit d'ailleurs, on le sait bien. Il y a une phrase de Monterland que j'aimais beaucoup autrefois qui dit « Tout ce qui est atteint est détruit ». Je ne le pense pas du tout, ça me paraît une pensée d'un pessimisme formidable. Je crois au contraire qu'il faut dire que tout ce qui est atteint vous laisse un sentiment d'insatisfaction qui vous montre que c'est votre désir allait bien au-delà. Et je ne pense pas que ce soit autre chose en effet que ce qu'on peut nommer l'absolu. Un amour humain, qui est l'image la plus approchée probablement de ce que peut être le rapport de Dieu avec l'homme dans les deux sens, n'est pas, dans sa plus grande réalisation, ne laisse pas le sentiment d'insatisfaction que laisse la possession des choses matérielles ou le fait d'avoir terminé une œuvre. Mais il me semble que dans son plus grand accomplissement, il sait que, en même temps, sa force, c'est d'avoir été le porteur et le symbole de quelque chose qui va encore plus loin. Alors je ne dirai pas le désir d'éternité parce que je ne sais pas ce que c'est que l'éternité. Je pense que nous mettons là un terme, il est commode, mais je trouve extraordinairement difficile de le définir, ou même de le concevoir, de le penser. Mais c'est certainement celui d'une plénitude qui serait celle d'un amour sans lien, sans limite, sans fin dans le temps, donc sans mort. Est-ce en ayant traversé la mort? Est-ce au-delà de la mort? Je pense que c'est nécessairement par une traversée de la mort. C'est ce que les chrétiens et ce que j'appelle très volontiers, et on le sait bien, la résurrection. Mais tout ceci est objet d'espérance. C'est-à-dire que peut-être que l'espérance ne peut bien se comprendre et se découvrir qu'au fur et à mesure, justement, que les projets ont été vécus et atteints. Sinon, l'espérance tombe sous le coup du vieux reproche marxiste de l'opium du peuple. En effet, si l'espérance est projetée dans quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que nous essayons de vivre en progressant dans la plénitude, alors en effet, elle est, n'étant que reportée ailleurs, elle minimise d'ailleurs, elle réduit, elle rapetisse ce qui peut être atteint humainement et qui, selon moi, dans la vie comme dans l'art, ne peut être pleinement compris que si on y lit en même temps sa plénitude et sa suffisance, et en même temps sa symbolique qui montre une insuffisance puisqu'il est symbolique d'une totalité.
Quel est alors le sens de l'échec? Par exemple, Homère échoue. Quel est le sens de l'échec dans cette espérance?
Et il y a un échec fondamental de la vie humaine, c'est la mort. Et beaucoup de choses dans ce que nous disions tout à l'heure, dans la conquête ou dans la recherche de l'amour, de la transparence des êtres les uns aux autres, de la libération des êtres les uns par rapport aux autres dans une société, beaucoup de ces choses, si on peut appeler ça choses, ne peuvent être atteintes qu'au prix du risque de mort. Donc, au risque de l'échec. Et dans le cas d'Homère, quand il s'élance dans sa dernière course pour suivre cette crête de la sacière à partir de laquelle il pense qu'il va pouvoir être au cœur de la quête du feu et peut-être l'atteindre et peut-être savoir comment on fait le feu et donc à ce moment-là la porter aux autres et les libérer, Homère fait ça au risque d'un échec grave, premièrement l'échec de ne pas atteindre, mais comme l'accès à cette grotte est interdit, il sait très bien que s'il est vu, de toute manière, il sera percé par les flèches des chasseurs qui gardent les anciennes et qu'il mourra. C'est le seul cas où la loi, et qu'il suit, la loi de cette société-là, ce qu'ils appellent la loi de Rosalie, du nom de leur ancêtre fondatrice, c'est le seul cas où il prévoit la mort. Sinon, les hommes n'ont pas le droit de se tuer. Mais pour le feu, il prévoit la mort. Pour la prise du feu. Vieille symbolique, d'ailleurs, dans l'histoire mythologique de l'humanité, bien entendu. Donc, il sait que, d'une part, en tâchant d'atteindre ce secret, il peut être mis à mort par cette société, et d'autre part, il sait, étant gravement blessé, qu'en faisant cette ascension, et de nuit, par l'orage, ça se trouve comme ça, ses chances de chute existent. Il est assez montagnard, toute cette population est montagnarde, pour savoir ce que c'est que de gravir de nuit une arête comme celle de la Sassière, car c'est un paysage réel, je vous le dis en passant, la Sassière est vraiment une crête dans les Alpes françaises, que je connais bien, que j'ai faite, il y a bien longtemps, et en faisant l'ascension de cette crête de nuit, partant d'orage avec la paroi glissante, les chances qu'il a de se tuer sont considérables. Et il se tue, effectivement. Il tombe. Mais il a franchi l'échec, parce que l'essentiel pour lui, c'était que la quête qu'il a commencée continue. Or, tout le livre est fait du fait que, à partir d'un moment, cet homme qui, en principe, n'a pas le droit d'écrire, c'est réservé aux femmes, a écrit pour garder un certain nombre de traditions qui lui paraissent pouvoir éclairer, justement, tous les problèmes du présent et de l'avenir, et il a écrit au fur et à mesure, et c'est tout le livre, ce qu'il cherche, comment il cherche, et les moments où il s'en approche. Et il y a notamment un moment où il s'est quasi approché de la possibilité de faire le feu, c'est quand, à la suite de différents événements qui seraient trop longs de narrer, il est parti sur un petit bateau qu'il a d'ailleurs volé, autre acte de violence, ces petits bateaux faits uniquement en peau et en branches qu'ils peuvent avoir, et seul sur un petit îlot, il a cherché avec un vieux morceau de bois sec qu'il a trouvé, qui était un bois flotté qui avait été porté là, en frottant le bois, il a senti, comme il dit, l'odeur du feu dans son nez. Il ne sait pas encore ce qu'il va en faire de ça, mais il sent que là, il est déjà sur une voie. Et il l'écrit. Ce qui veut dire que son fils, puisqu'il a fait un fils à Agathe, qu'Agathe est enceinte quand il part pour cette dernière course, il laisse ce qu'il appelait le livre, qui sont des pots sur lesquels il a écrit, qui sont dans son sac. Il n'a pas quitté son sac un instant, il voulait le laisser, ça le gênait. Et il se dit, oui, mais si je quitte mon sac et que je meurs, on ne le retrouvera pas. Il faut que cela continue. Et il meurt avec son sac. La main, d'ailleurs, étant tombée du rocher, la main dans son sac en tenant son livre. Et les derniers mots du livre, c'est Agathe, cette femme, qui les écrit en disant, je continue le livre, Jean apprendra à lire dans le livre d'Homère. Donc d'abord, il apprendra à lire, Et deuxièmement, en lisant ça, il continuera la quête. Mmh. Alors, est-ce un échec ? C'est l'échec d'un homme à l'intérieur de quelque chose qui continue à se conquérir dans une descendance, dans l'humanité, dans une société, pour ça que nous voulons.
Mais la continuation, justement, elle n'est possible que par l'amour, si je comprends bien.
Il faut d'abord cet amour d'Agathe, qui l'a accompagné jusque-là, presque jusque-là. Mais comme il le dit, la dernière nuit, il faut qu'il soit seul. Il est seul à pouvoir faire cette ascension. D'autant plus qu'Agathe est enceinte et donc reste dans une grotte à l'attendre. Et il ne reviendra pas. On le retrouvera 5 jours après, tout mangé par les oiseaux des roches. Et cette suite n'est possible que parce qu'Agathe l'aime, parce qu'Agathe comprendra, parce qu'Agathe est partie et fait partir à sa recherche, trouve le livre et veut que cela continue. Et au fond, elle l'a porté jusque-là. Elle l'a sauvé déjà 2 fois. D'abord une fois où il était attaqué par les chasseurs, une autre fois où il se noyait, elle l'a porté sur son dos, dans la mer alors qu'il était évanoui. C'est l'amour d'Agathe. Et c'est l'amour qu'ils se sont en quelque sorte suscité l'un l'autre. Vous savez, je suis toujours très, c'est une parenthèse, mais voir qu'elle a un rapport, très touché par une formule que nous employons en France, je ne sais pas si on l'emploie aussi chez vous, dans les annonces de mariage, au lieu de mettre que la bénédiction nuptiale leur sera donnée ou qu'ils recevront le sacrement de mariage, beaucoup de personnes mettent, et j'ai connu cela dès l'époque où moi-même je me suis marié, ils se donneront le sacrement de mariage, ce qui est théologiquement et sacramentellement très juste. Mais je retrouve là exactement la même chose, à savoir que c'est une suscitation mutuelle qui elle-même, dans cette suscitation, devient réception de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que les deux êtres se donnent, mais réception justement de ce que Dieu leur donne à travers ce qu'ils se donnent l'un à l'autre. Et dans le cas présent, où il n'est pas question du tout, j'ai supposé une société n'ayant aucune idée de christianisme, a-t-il été perdu? Est-ce qu'on le retrouvera? Il y a là de très vagues souvenirs dans les traditions qui recueillent.
Et même apparemment aucun souci métaphysique. Aucun.
Eh bien, un peu comme le peuple de l'Ancien Testament, il est probable qu'en recevant les dons, les demandes, les suscitations de quelque chose qui dépasse leurs désirs immédiats, ils se rendent en même temps accueillants à quelque chose qui va les dépasser et qui peut-être prendra son nom. De même que dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu peu à peu, d'une part parler, commencer par parler à Abraham en exigeant de lui quelque chose d'affreux, le sacrifice d'Isaac, et d'autre part, commencer ensuite avec Moïse à se révéler en donnant son nom. Et puis, nous connaissons la suite, cette révélation de plus en plus frappante, jusqu'au moment de l'essentiel, cette révélation par les prophètes, faisant entrer très profondément, elle était déjà présente, la notion d'un amour entre Dieu et son peuple. Et, si vous voulez, pour moi, Homer n'a pas un itinéraire semblable à celui de Jésus, encore qu'il y ait une passion, si j'ose dire, il y a un don de soi, mais un itinéraire qu'on pourrait, dans une certaine mesure, comparer, toute proportion gardée, un itinéraire de prophète de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que ce qu'il fait, et pour signifier à son peuple une certaine possibilité de libération, ce qu'il y a, c'est qu'il ne reçoit pas la voix de Dieu pour le faire. Il vit à travers ce que vous appeliez tout à l'heure, ce désir qui monte, et dont nous parlions ensemble. Et puis d'autre part, il le réalise au fur et à mesure, à travers des actions qui, sans qu'il s'en doute, seront probablement des actions ayant une valeur juste de symbole, comme nous le disions aussi, de symbole, pour les gens qui connaîtront ce qui lui est arrivé. D'abord, Agathe, qu'il aime, et son fils, qui apprendra à savoir ce qui s'est passé, et que toute cette aventure, cette recherche, ce désir, et finalement, cette espèce de sacrifice final, qui est en même temps un échec du désir, sera porteur de symboles, comme nous savons bien que dans l'Ancien Testament, Osée ou Jérémie employaient des symboliques par les actes mêmes qu'ils faisaient pour éveiller autour d'eux à un appel qui n'est pas toujours compréhensible et facile à traduire.
Mais j'oserais presque vous demander, se libérer, pourquoi faire, n'est-ce pas? Oui. Que peut-on faire de notre liberté?
Oui, absolument. Mais alors là, je laisse la question absolument ouverte, je dirais que c'est la réponse de chacun, pourquoi faire? Moi, ma réponse personnelle, si vous voulez, ça serait non pas pourquoi faire, mais pourquoi être. Parce que faire, c'est bien joli, mais en effet, quoi faire quoi? Or, faire ce que une croissance dans l'être vous suggère. Et dans le cas du chrétien, je pense que la plupart du temps, il ne sait pas. Et que si Dieu parlait aux êtres, ça serait évidemment beaucoup plus simple, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est rarissime, bien entendu, et suivant des formes très obscures le plus souvent. Et que donc, ce qui est important, c'est de répondre à l'appel du « pourquoi être ?». Il y a un beau livre de Teilhard Chardin qui s'appelle « Être plus ». Bien sûr, c'est une formulation quantitative qui peut être prise dans un mauvais sens. Mais pour Teilhard, ça voulait dire en intensité, bien entendu, en qualité d'être, et en ce qu'il aurait appelé en christification. Donc pour être plus, de façon à ce que les actes, quels qu'ils soient, que l'on est amené à faire dans la vie, et les paroles et les rapports avec les êtres, avec soi-même, avec l'ensemble du corps social, que ce rapport soit lui-même transformé par l'être plus, et donc que, à ce moment-là, les actions dont les hommes sont responsables, qu'ils ont inventées, au point de vue de leur modalité, au point de vue de leur technique, au point de vue de leurs finalités immédiates, au point de vue de leurs conséquences sur autrui, là, les hommes en sont responsables, mais que ces actes soient porteurs, pour eux et pour les autres, d'un plus-être qui est probablement une des attentes d'un absolu qui ne se réalise pas avant l'échec de la mort qui lui-même sera peut-être, je l'espère, traversé et annulé par la résurrection.
Bon, André Le Sœur, je vous remercie.